Bonsoir. Long Tall Sally, c'était l'un de ses plus grands tubes et lui c'était l'un des pionniers du rock, certains diront le plus grand. Little Richard est mort, il avait 87 ans. De lui se sont inspirés notamment les Stones ou David Bowie. On reviendra tout à l'heure sur l'influence qui fut la sienne. C'est comme si c'était fait pour le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence. Députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur deux points chauds, la responsabilité des décideurs et le système d'information qui permettra d'identifier les malades et les personnes contacts. Les syndicats de médecins se disent satisfaits. Le cluster de Dordogne désormais sous contrôle après la contamination de 9 personnes à l'issue d'une cérémonie d'obsèques. Le traçage des cas contacts et le dépistage ont permis, selon le directeur de l'Agence régionale de santé, de bloquer la chaîne de transmission du virus. Nous l'entendrons. Dans ce journal également, les critiques sévères de Laurent Berger en direction de la CGT de l'usine Renault-Sandouville. C'était ce matin sur France Inter. Et puis tolérance zéro dans les avions d'Air France. Dès lundi, port du masque et prise de température à l'embarquement. Enfin, la météo, 5 départements du sud-ouest en vigilance orange aux pluies et inondations.
France Inter.
Ils se sont mis d'accord. Députés et sénateurs ont donc trouvé un compromis sur la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui sera donc maintenu jusqu'au 10 juillet et non plus le 24 comme annoncé par le Premier ministre. Les données sur les malades et leur entourage collectées par l'assurance maladie seront sauvegardées 3 mois et non plus 9 comme initialement prévu. La responsabilité pénale des élus dans ce contexte épidémique sera atténuée sans aller jusqu'à l'impunité que chaque camp s'accusait mutuellement de vouloir organiser, Élodie Forêt.
Il aura fallu 3 heures de discussion ce matin en commission mixte paritaire pour arriver à un compromis salué par une droite qui, depuis le début de la semaine, ferraillait face au gouvernement. Avec d'abord sur le système d'information qui permettra de tracer les personnes malades et leurs contacts, des garanties obtenues, notamment sur la conservation des données durant 3 mois au lieu des 9 mois votées lors de la première lecture à l'Assemblée. Satisfaction aussi sur l'organisme de contrôle indépendant qui sera créé pour surveiller ce système. Quant à la question de la responsabilité des décideurs, les parlementaires se sont entendus sur une nouvelle formule plus claire. Personne ne sera exonéré, mais les exécutants, maires, employeurs, fonctionnaires seront protégés. Suffisant pour la droite, donc pas pour la gauche. Il n'y a pas une ligne sur le social, regrette le sénateur PS Jean-Pierre Sueur. Les socialistes qui souhaitaient notamment supprimer les frais bancaires pour les plus vulnérables et qui n'ont pas été entendus.
Élodie Forêt, le texte doit être maintenant voté et les décrets d'application publiée demain. Ce sont bien les médecins qui seront donc au départ du système d'information, les médecins qui devront signaler à l'assurance maladie les patients atteints du Covid, mais ils n'auront pas à collecter les coordonnées de leurs proches. 3 syndicats de généralistes se disent ce soir satisfaits du texte, parmi eux le syndicat MG France et son président Jacques Battistoni.
Pour MG France, le texte de loi permet de donner l'essentiel des garanties que je crois les médecins généralistes attendaient pour s'engager dans ce dispositif de signalement des cas contacts, l'objectif étant surtout d'éviter que l'épidémie ne continue à se propager. Le personnel de l'assurance maladie est tenu au secret médical et au secret professionnel. Deuxièmement, les données qui seront relevées à ce propos seront uniquement concernant le Covid et seront détruites au bout de 3 mois. Signaler les cas contacts se fera si le patient est d'accord avec son médecin pour indiquer à l'assurance maladie quelles sont les personnes pour lesquelles il est important de proposer un test de dépistage. Donc l'essentiel des garanties attendues sont au rendez-vous, me semble-t-il, et les médecins généralistes pourront s'engager dans ce processus dont l'importance est très grande et l'enjeu très fort pour réussir le déconfinement.
Le syndicat MG France et son président Jacques Battistoni, interrogé par Célia Kiré. Cluster en Dordogne, on n'avait plus entendu ce terme depuis le tout début de l'épidémie. Au Contamine Montjoie ou Crépy-en-Valois, cette fois c'est dans la commune d'Église-Neuve-de-Vers en Dordogne, un département plutôt épargné jusqu'ici. C'est là qu'un foyer d'infection a été détecté fin avril, un cluster avéré selon le directeur de l'Agence régionale de santé. Après un premier test positif et la recherche du virus dans l'entourage du malade, il avait été trouvé sur 8 autres personnes qui n'ont pas développé de forme grave de la maladie, ni ni été hospitalisées. Toutes s'étaient trouvées ensemble à l'enterrement d'un proche, au-delà du nombre de personnes autorisées. Ce soir, la situation est sous contrôle grâce au traçage de la chaîne des transmissions, en illustration justement de ce dont on vient de parler. Travail complexe et qui repose sur la confiance, comme tient à le préciser Michel Lafourcade, le directeur de l'Agence régionale de santé.
Créer de l'empathie, de la pédagogie, de la confiance pour que les personnes comprennent le plus vite possible qu'il n'y a dans les propos du médecin de l'ARS qui les appelle aucun sentiment inquisiteur, mais simplement la volonté de faire son travail pour casser la chaîne de transmission en lui demandant quelle a été sa vie ces derniers jours et quelles sont les personnes croisées. Mais reconnaissons qu'il est presque normal, en tout cas tout à fait compréhensible, que toutes les personnes ne se livrent pas sur ce qu'a été leur vie intime tout de suite et dès le premier appel. Parce que le risque, c'est d'en rester à la réponse un peu évasive en première intention. Les gens pouvant se dire « je ne suis pas là pour dénoncer » entre guillemets des gens, pour créer cette relation de confiance. Et vraiment, nous avons le sentiment que toutes ces règles ont été appliquées.
Le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine avec Faustine Calmel, de l'importance du traçage et de l'isolement des personnes positives. Donc, c'est d'où cette idée peut-être de quatorzaine qui pourrait s'appliquer à la Corse, comme elle s'applique à l'outre-mer. L'idée n'a pas été complètement écartée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Mais pour les élus de Corse, il faut aller plus loin. C'est un vrai pass sanitaire que propose dans Le Parisien ce matin Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse. Un pass qui permettrait d'interdire le débarquement sur l'île de toute personne testée positive. Cyril Graziani, proposition qui a tout de la méthode Coué.
Les nationalistes corses ont lancé une bouée à Paris pour sauver la saison touristique tout en défendant la sécurité sanitaire. Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, a fait voter cette proposition jeudi.
Il faut demander à toute personne candidate à ce déplacement de produire un test PCR qui atteste que ce test est négatif. En incluant, bien sûr, on le sait qu'il y a des marges d'erreur, des faux négatifs, etc. Donc il ne s'agit pas d'avoir une sécurité absolue, mais au moins d'avoir une gestion des flux qui permette d'être dans des proportions et dans des modalités d'accueil des gens qui sécurisent totalement au plan sanitaire.
Dispositif que le président de l'exécutif corse aimerait voir appliqué dès le 23 juin, voire avant. Sur l'île, sa proposition ne suscite pas l'enthousiasme, notamment de la part du maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci.
Gilles Simeone dit vouloir un équilibre entre la santé et le développement économique et social. La réalité, c'est qu'il n'a pas joué l'équilibre. Il joue le principe de précaution poussé au maximum. Il dit vouloir atteindre le risque zéro. Or, ce risque zéro, nous ne l'atteindrons jamais. On aura le touriste zéro.
Le tourisme, c'est 30% du PIB de la Corse. Le ministère de l'Intérieur n'a pas réagi officiellement à cette proposition, mais en coulisses, on explique étudier sa faisabilité juridique, même si les constitutionnalistes saisis ont déjà répliqué que c'était inconstitutionnel.
Cyril Graziani, à l'instant, le bilan quotidien de l'épidémie en France. 80 morts supplémentaires ces dernières 24 heures. C'est le plus faible bilan depuis le début avril.
Il est 19h08 sur France Inter. La suite du journal Yves de Caen.
Une posture irresponsable de la CGT, c'est le patron de la CFDT qui le dit. Laurent Berger, ce matin sur France Inter, a fustigé l'attitude de la CGT à l'usine de Renault-Sandouville, usine qui a dû refermer ses portes sur injonction de la justice pour n'avoir pas respecter les procédures d'information des syndicats. Le tribunal avait été saisi par la CGT, que dénonce aujourd'hui la plupart des autres syndicats CFDT en tête. Pour elles, pour eux, ce n'est pas la bonne façon de rendre service aux salariés. Fabien Cazot, deux stratégies bien différentes pour apprécier le déconfinement et la reprise du travail.
CGT et CFDT se rejoignent sur un point, du moins dans les discours. Il est absolument nécessaire que le retour au travail se fasse dans des conditions sanitaires irréprochables. Les deux syndicats ont su chacun se montrer intraitable dans différentes situations, mais à chacun sa stratégie. Appel à la grève début avril pour la CFDT chez Amazon. Action en justice pour la CGT qui fait se refermer les portes de l'usine Renault à Sandouville. Pourquoi la CGT, si prompte en temps normal à se battre contre les fermetures d'usines, se bat-elle aujourd'hui pour qu'elle ne rouvre pas, tacle-t-on dans le camp réformiste. La santé des salariés doit primer sur l'activité économique, répond-on à la CGT. Un débat entre deux visions du syndicalisme qui a trouvé son point d'orgue le 30 avril dernier, lorsque la CFDT déclarait avec le MEDEF que l'activité économique devait reprendre quand les conditions sanitaires étaient optimales. Les employeurs ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités, répond sur un ton plus menaçant la CGT, qui évoque des poursuites au pénal en cas de manquement contre ceux qu'elle désigne comme des employeurs délinquants.
Un guide du télétravail pour le déconfinement, il vient d'être publié sur le site du ministère sous forme de questions-réponses. Guide destiné aux entreprises qui n'ont pas mis en place un accord, une charte. À ce jour, 5 millions de personnes sont au télétravail et les entreprises ont été invitées à pousser l'expérience au maximum dans les jours qui viennent. Un contrôle de plus à l'embarquement dans les avions d'Air France, le contrôle des températures. La compagnie annonce qu'à partir de lundi, tous les passagers feront systématiquement l'objet d'une vérification au moyen d'un thermomètre infrarouge sans contact. Quiconque affichera plus de 38 degrés ne pourra pas embarquer. En outre, le port du masque sera évidemment obligatoire et les consignes très strictes. Ce sera tolérance zéro, explique Olivier Lavielle, porte-parole du syndicat des navigants.
Des mesures très drastiques seront prises à partir de lundi. Prise de température, masque pour les passagers, etc. etc. Et si une personne ne se soumet pas à cela et insiste pour ne pas s'y soumettre, eh bien, on rentrera dans une procédure qui existe déjà au sein de l'aviation civile. C'est une procédure dite de passager indiscipliné, donc un avertissement, et ensuite, éventuellement, l'atterrissage de l'appareil dans un territoire X ou Y pour le débarquement du passager incriminé. En tant que syndicaliste, on est toujours dans la critique, mais là, en l'occurrence, Air France a pris des mesures plus drastiques que ce qui était imposé par les différents gouvernements et les instances sanitaires dès le début de la crise. Et aujourd'hui, on en est à, voyez-vous, prendre la température alors que ça ne nous est pas demandé, refuser l'accès à nos avions lorsque les gens auront de la température, refuser l'accès à nos avions aux gens qui ne seront pas équipés, sont des choses qu'on ne nous a pas demandé mais qu'on met en place. Par respect pour nos clients, par respect pour les salariés, par respect pour les destinations dans lesquelles on se rend.
En rappelant aussi que le service de boissons et de restauration à bord des avions a été supprimé pour tous les vols courts en Europe. À l'étranger, plus de 10 000 contaminations supplémentaires en Russie pour le 7e jour consécutif, soit quasiment 200 000 personnes infectées. Chiffre inquiétant que les autorités expliquent par la multiplication des tests. Parallèlement, la mortalité reste relativement basse avec moins de 2 000 décès, ce qui fait naître des interrogations sur la véracité des statistiques. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Avec 5 millions de tests déjà effectués, les responsables de la lutte contre la pandémie ici estiment qu'ils contiennent non seulement la propagation du virus actuellement, mais aussi qu'ils se prémunissent déjà face à une éventuelle deuxième vague. Pour eux, l'augmentation du nombre de cas ne veut pas dire une perte de contrôle. Au contraire, ce dépistage massif permettrait d'identifier largement et justement assez tôt les cas légers et asymptomatiques qui sont tout de suite soignés et isolés efficacement. Mais des voix critiques se sont élevées, notamment dans certains milieux médicaux, pour indiquer qu'au début de la pandémie notamment, nombre de décès auraient été attribués à d'autres causes, notamment des pneumonies plutôt qu'au Covid-19. Avec une problématique toutefois, faire cohabiter encore plusieurs semaines cette politique de test à grande échelle avec le potentiel d'accueil du système hospitalier russe soumis à un afflux de malades toujours plus dense. Mais là aussi, les autorités se veulent rassurantes en précisant que la Russie affichait cette semaine un contingent de 27 000 lits encore disponibles. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et ce matin, le président Poutine, qui célébrait la victoire de mai 45 en Russie, c'est avec un jour de décalage, le président Poutine n'a pas dit un mot de l'épidémie. Les chiffres du jour en Espagne, 179 décès, la décrue de l'épidémie se confirme. Au Royaume-Uni également, de façon beaucoup moins évidente, 346 morts ces dernières 24 heures, plus de 31 500 au total. En sport, ils sont dans les starting blocks, c'est le cas de le dire. Les athlètes vont pouvoir dès lundi reprendre l'entraînement, comme toutes les disciplines se pratiquant en plein air et individuellement. Un retour en douceur et très progressif, attention au claquage, Vincent Pellegrini.
À Bordeaux, où elle est restée confinée, Solène Damas s'est entraînée comme elle a pu pendant 2 mois. Spécialiste à la fois du 100 mètres haies et de l'heptathlon, elle va pouvoir retrouver rapidement les stades, les pistes et les sautoirs.
Il n'y a pas les mêmes sensations parce que c'est pas du tout les mêmes entraînements non plus. C'est pas pareil, c'est pas la même dynamique, on n'est pas en groupe, on est chacun chez soi. De retrouver les stades, la piste, mais c'est vrai quand même que ça nous manque. Enfin, moi personnellement, ça me manque en tout cas.
Les athlètes devront recevoir des autorisations de leur mairie pour utiliser de nouveau les installations sportives, ce qui prendra quelques jours, mais ils devront aussi respecter scrupuleusement plusieurs consignes, rappelle Patrice Gergès, directeur technique national de l'athlétisme français.
Parce que on utilise des engins, chacun son engin. On n'utilise pas un starting block qu'un autre a utilisé, en tout cas sans l'avoir nettoyé. On n'utilise pas les couloirs les uns à côté des autres. On laisse au moins un couloir d'écart entre les personnes qui courent. Une adaptation complète à chaque activité de l'athlétisme.
Les athlètes devront aussi veiller, comme après une blessure, à ne pas trop forcer, après 2 mois d'entraînement à minima. De toute façon, pour eux, rien ne presse. Aucune compétition ne sera organisée avant fin août. Et la prochaine grande échéance, le rendez-vous olympique de Tokyo, c'est dans 14 mois.
En sport également, la bonne nouvelle à Lyon, enfin, pour le président du club, Jean-Michel Aulas, désespéré par l'arrêt de la saison. Toutes les joueuses et tous les joueurs de l'OL ont été testés et tous les tests sont négatifs. Il était l'un des pionniers du rock, l'égal des Chuck Berry, Fats Domino ou Jerry Lee Lewis. Little Richard est mort, il avait 87 ans. Son premier tube, Tutti Frutti, c'était dans les années 50, Mathieu Culeron.
Little Richard!
Bien sûr, Little Richard fait partie des pionniers du rock, mais son exubérance et son dynamisme deviennent une référence pour des générations de musiciens, en particulier ceux qui seront adolescents à la fin des années 60 et qui construiront les bases du punk américain. Mark Zarmati est producteur et précurseur du punk en France.
Le rock était quelque chose d'international, c'était la révolte d'une génération, c'était la génération électrique qui sortait d'après-guerre et qui avait besoin de s'exprimer. Little Richard, ça a été une figure, tu vois, leader pour toute une génération. Tous les grands artistes d'une certaine époque, genre Lou Reed, etc., quand Bob Dylan, tu leur demandes quel est leur favori, ils vont tous te dire Little Richard.
Little Richard, maquillé, interpelle son public, joue par-dessous sa jambe, il casse les codes et les conventions. 15 ans plus tard, les New York Dolls, pionniers du punk, se maquillent, s'habillent en femmes et reprennent du Little Richard. David Johansen est chanteur des New York Dolls. Écoute, pense à Little Richard, il débarque et en 2 minutes, il retourne la salle. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire. Little Richard, pilier du rock, ouvre la porte au punk. Il restera à jamais le plus flamboyant aventurier de ce style musical.
Et dans son groupe avait démarré un jeune musicien qui s'appelait Jimi Hendrix. Ce soir, Mick Jagger rend hommage à Little Richard. Il a été ma plus grande inspiration quand j'étais ado, écrit le chanteur des Stones. Sa musique a gardé la même énergie électrique aujourd'hui qu'au milieu des années 50. Allez, on ne l'a pas vu passer, mais le 5 mai dernier, mardi, c'était la journée internationale de la sage-femme. Journée qui n'a pas eu l'honneur des médias en pleine épidémie de Covid. Heureusement, vous êtes là, Christine Siméon. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
C'est en pensant aux sages-femmes que vous avez fait votre visite mensuelle dans les pages de la bibliothèque numérique Gallica.
Elles s'appellent Louise Bourgeois, Marianne Boivin, Angélique Coudray, Marguerite de Lamarche, Marie Jonnet, Virginie Messager. Elles ont fait l'histoire d'une pratique, celle de l'accouchement. Depuis le XVIIe siècle, elles ont enseigné, écrit, fait progresser les techniques d'accompagnement des femmes. Dans Gallica, la bibliothèque numérique de Radio France, de nombreux documents renseignent cette histoire. C'est Nathalie Sage-Pranchère, historienne, qui m'a guidée dans les pages de Gallica.
Je pense en particulier aux travaux de Marianne Boivin du début du XIXe siècle. Et on va trouver dans Gallica l'intégralité de ses œuvres. Tout d'abord, son grand manuel d'enseignement, le Mémorial de l'art des accouchements. Et puis plus largement, les travaux qu'elle a faits sur la mesure du bassin, sur les causes de l'avortement, sur les fausses grossesses, qu'on appelle les molles. On trouve aussi dans Gallica tous les travaux qu'elle a menés avec Antoine Dugès, qui était un accoucheur, sur les maladies de l'utérus, avec énormément de planches qu'elle a dessinées elle-même. Hein. On a des récits, on sait qu'elle les a dessinées, mais on a la chance d'y accéder justement par ses ouvrages qui sont mis en ligne sur Gallica.
Alors on parle d'une époque où accoucher n'était pas sans danger, la mortalité en couche était importante, on accouchait à domicile avec l'aide de femmes plus ou moins expérimentées.
Ces sages-femmes, il leur a fallu trouver des remèdes contre les fièvres des accouchés, comprendre les anomalies dans les développements des grossesses. Donc, elles ont étudié, expérimenté, dessiné à l'usage des futurs professionnels pour transmettre leur savoir.
De ce point de vue, on peut vraiment faire un lien entre l'intense, finalement, qualité professionnelle que ces femmes ont pu développer, qu'il s'agisse de Marie-Anne Boivin ou de Marie-Louise Lachapelle, qui était sage-femme en chef de la maternité de Paris, avec aujourd'hui la virtuosité clinique et pratique des sages-femmes qu'on va trouver dans tous les hôpitaux français, puisque désormais l'accouchement est plus que massivement hospitalier.
Elles ont beaucoup écrit jusque dans les années 1850, et après, eh bien, les médecins ont été beaucoup mieux formés à l'obstétrique, et du coup, c'est eux qui ont publié les nouveaux ouvrages. Et resté aux sages-femmes le domaine de la vulgarisation.
Christine Siméon, pour découvrir l'histoire de ces femmes, suivre les liens évidemment sur Gallica, et puis suivre aussi sur Gallica le blog consacré aux hôpitaux parisiens, blog lancé à l'occasion de l'épidémie de coronavirus.
Merci beaucoup pour ce journal, Yves Decandre.